un entrepreneur, un innovateur, le grand pédagogue de la fourrure. Aujourd'hui, on jase là avec Mario Bilodeau. Aujourd'hui, on jase avec Mario Bilodeau. Salut Mario.
Salut.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien.
Mario, moi j'ai le goût de t'appeler le roi de la fourrure. mais là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, c'est qui Mario Bilodeau? T'sais, Mario, toi, t'es natif de Saint-Thomas-du-Dixième.
Oui, Saint-Thomas-du-Dixième.
Puis t'es comment Mario Bilodeau quand t'étais enfant? T'sais? Par rapport à... T'étais né où dans ta famille? Ça
un
se passait comment?
Un peu comme toutes les runs de petits villages. J'étais un gars en numéro du sport. J'étais un vrai sportif. J'aimais bien beaucoup le sport. Je jouais au hockey pendant beaucoup d'années, la balle lente pendant beaucoup d'années. C'était les deux sports qui se pratiquaient dans cette période-là. Puis après ça, ben la nature. La nature, mon père, mes frères, la nature.
Vous étiez dans le bois tout le temps?
Ben, mon père aimait la chasse, aimait la pêche, aimait la forêt. Fait que on allait faire notre boulot l'automne, tu sais. Ben, on est des gars de bois, tu sais. Ouais. On a eu un chalet longtemps au lac des Ozones à Saint-Thomas. On a eu un chalet pendant toute ma jeunesse. Fait que là, les animaux, ben, ça a décollé là.
À quel âge là, tu réalises, là, bon, ton père chasse, ça fait de la nourriture, ça fait de la viande, mais tu réalises que... Attends, là, y a de la fourrure. On peut faire de quoi avec la fourrure? C'est-tu à ce moment-là ou...
J'ai commencé à faire de la taxidermie, j'avais 8 ans. Ça donne une idée, c'est que ça faisait partie de moi. Là. Nous autres, quand on était jeunes, on jouait avec les animaux, on avait des poules, on avait des lapins. Avec un de mes cousins, on faisait ça. On avait des poules, des lapins, on avait une petite cabane où on mettait ça. Puis de temps en temps, un lièvre, une perdrix, quand on était en forêt, qu'on pouvait aussi récupérer des petits... toutes sortes de choses comme ça qui m'a amené... À la taxidermie, comme un moment donné, je me suis aperçu, ah ouais, on peut faire ça avec ça. Là, arrête un livre de Jean Labrie, qui c'est un livre qui est aux éditions de l'Homme, qui parlait de la taxidermie.
T'as quel âge à ce moment-là?
Moi, 7-8 ans dans cette période-là. J'ai acheté ce livre-là, puis là, on a commencé tranquillement à regarder ça. Puis ça a débuté par une blette, une corneille.
Tu t'en rappelles le premier, c'est quoi?
Ah oui, c'est une blette. Le premier, une blette, un écureuil, je te dirais pas en ordre de quel que c'est, là, mais ouais. ça ressemblait à ça. Là.
Ouais, puis l'as-tu encore? Tu l'as-tu?
Non. Hey, ça fait 5 ans. Je m'en vois 58 ans. J'en ai perdu des petits bouts, là, mais dans le sens que, oui, j'ai récupéré des vieilles pièces que des gens souvent m'ont dit, gars, Mario, tu m'avais fait ça dans les années 80, tu sais, te rappelles-tu de ça? Puis souvent, j'ai des souvenirs qui me reviennent de même, que des gens m'amènent ça, que je ne me rappelais plus. Parce que des bêtes naturalisées, je peux vous dire, de là à aujourd'hui, on en a fait des milliers et des milliers et des milliers. Là, on en a fait énormément.
Toi, quand tu étais. Là, tu es là-dedans. Donc, l'importance du territoire. Toi, je veux dire, tu avais un territoire, j'imagine, au départ, là, tu sais, avec ton père, vous alliez chasser, etc. Donc, tu sais. La place où tu es né, Saint-Thomas-du-Dixième, ça a eu une importance dans ce que tu fais aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Après ça, tous les gens avec qui on était aux entours de nous autres, mes oncles, c'était toutes des maniaques. Puis les jeunes avec qui, mes chums, là, c'était nous autres, on partait se tenter, l'été comme l'hiver, là. On partait en forêt, là, puis on allait, durant les week-ends, on partait, puis on allait dans le bois, puis on allait se tendre des collalières, on allait trapper. C'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, m'en suis fait un métier que je dis souvent que j'étais un privilégié de la vie. J'ai réussi à vivre de ma passion.
Ouais.
Tu sais, c'est rare les gens qui peuvent dire que t'es passionné par quelque chose, mais de là, on en vivre.
C'est souvent les gens les plus heureux.
Oui, ben, je peux pas dire que j'étais malheureux. J'étais très heureux dans ma vie aussi, par cause de tout ça. Parce que moi, je me suis jamais levé pour travailler.
Tes amis, tout ça, là, tes frères, tu sais, quand tu as commencé à faire ça, de dire, moi, je vais faire de la taxidermie, tu commences, les jeunes, est-ce qu'ils te regardaient de manière bizarre en disant, pourquoi tu fais ça? Ils se posaient-tu des questions ou ils voyaient déjà l'utilité de.
Ben, pas tant, parce que ça a coulé comme dans leur vie, comme normalement, parce que moi, j'ai embarqué là-dedans très jeune. Fait que 12-13 ans, ils savaient déjà que j'en faisais.
Tes frères sont plus vieux ou plus jeunes que toi?
Plus vieux. OK. Oui, deux plus vieux, un plus jeune. Puis j'ai une soeur, le bébé.
Ouais.
Fait que... Puis eux autres, ben, mes frères sont allergiques Oui. Oui, aux chevaux et ces affaires-là. Fait que le seul qui pouvait toucher aux animaux c'est de quoi? Très près chez nous, c'est moi. Fait, okay. Fait que là, c'est comme ça que c'est assez. Tu sais, il se disait, ben moi, je peux. Mon frère, il aimait ça aussi, Martin, mon frère. Il aimait ça aussi, jouer dans les animaux, faire la taxidermie avec moi quand il était plus jeune, mais il pouvait pas parce qu'il était allergique.
Ah ouais. Fait que. Puis là, tu rentres à l'école, tu te suis ton parcours normal d'école, oui, avec tes amis, puis tu continues à faire ça.
Tout le temps. Fait que moi, j'ai gagné mes fins de semaine avec ça.
Ah ouais?
Ben oui, moi je faisais du commerce là.
Okay.
Tout de suite déjà là, en étant jeune, j'avais 14-15 ans, puis je vendais déjà des pièces. Ben j'ai un article de journaux là, que j'ai ici, là, que je suis 16 ans, gars. Adolescent, il était déjà taxidermiste professionnel. Tu sais, ça faisait. C'était déjà ancré là, puis qu'il y a des journalistes qui venaient me rencontrer, puis j'en ai fait plusieurs au fil des années, que je me suis fait connaître un petit peu de même. Puis là, quand j'ai vu que ça avait une certaine importance, que le monde aimait ça, ce que je faisais. Puis là, un jour, à l'âge de 18 ans, j'ai dit, je travaillais dans le temps dans le gros continental, j'étais assistant gérant continental dans cette période-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, je veux partir mon entreprise. Puis quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, t'es fou, c'est le premier. Tu sais, puis dans les années 80, quand t'arrives d'une chose comme ça, tu te dis, tu sais, pour un père, là, tu sais, que son garçon s'envoie dans la taxidermie, qui peut vivre de ça?
Bien, là, lui, dans sa tête, il dit. Dans le nord du lac Saint-Jean?
Oui, dans le nord du lac, il disait. Dans un des derniers villages avant le Grand Nord, si tu veux.
Ouais.
Fait que là, il avait pour son dire, ouais, mais Mario, ça n'a pas de sens. Tu peux pas vivre de ça. Tu peux, oui, en faire pour hober puis arrondir les fins de mois, mais pas gagner ta vie avec ça. Puis là, non, oui. Puis moi, dans ce temps-là, il y avait André Turcotte, qui était un grand taxidermiste à Montréal, okay, que lui gagnait sa vie avec ça. Puis lui, ça a été un peu comme mon. Tu sais, comme lui, ce gars-là, je le voyais tellement passionné, puis moi, je l'étais autant que ça. Je me disais, si lui a réussi à vivre de ça, moi, je devrais être capable aussi. Fait okay, que j'ai commencé avec deux de mes chums. On s'est bâti un petit atelier, puis.
Là, toi, ouais, là, t'es complètement. T'as tout appris par toi-même avec des livres. T'as pas ouais, suivi de cours de taxidermie.
Bon, je suivais un cours par correspondance.
Par correspondance.
Moi, quand j'avais 16 ans, à peu près. Toutes des choses comme ça, là.
Okay.
Puis après ça, rencontrer des gens qui aimaient la même chose que moi. On rencontrait des gens, Denis D'Amour, des gens que je voyais dans des expositions. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui faisaient la même chose que moi. Puis après ça, ben, tranquillement, pas vite, on a monté une expertise.
Puis là, au début, ça ressemble à quoi ton entreprise, là? C'est une cabane?
Ah, au début, c'était mélangé pas mal. On faisait de la menuiserie, on vendait un petit peu de confection qu'on fabriquait, puis on faisait de la taxidermie puis de l'apprêtage de fourrure. C'était okay, ça a commencé
c'est
comme
quoi,
ça.
C'est quoi de l'apprêtage de fourrure?
C'est le tannage. Le tannage des
okay,
peaux. Là.
Le tannage des peaux.
Une peau souple pour être capable de la travailler. Pour
taxidermie, c'est plus comme
naturalisé. Empaillé, ça veut dire, anciennement, c'était mettre de la paille à l'intérieur. Okay. Aujourd'hui, naturalisé, parce que c'est des formes en urethane. Qui c'est plus les mêmes techniques que c'était, naturellement, ça a évolué.
OK. Fait que toi, t'as suivi par correspondance quand même.
Oui, c'est quelque chose. Oui, là, quand j'étais jeune.
Puis là, tu faisais des tests, t'essayais des choses. Puis j'imagine que quand tu faisais ton cours par correspondance, tu devais te dire, ah, oh, mais ça, je le sais, ça, je suis capable. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant.
Puis on découvrait. Ouais. Puis souvent, à parler avec d'autres taxidermistes que tu découvres, c'est là qu'on a appris beaucoup. Après ça, des formations, des fins de semaine. Là, puis c'est comme ça qu'on a appris le métier. Puis veux pas, tu deviens, comme je disais tout le temps, quand t'es un taxidermiste, t'as 50 métiers. Parce que quand tu fais de la taxidermie, comme aujourd'hui, on voit ça, toute l'évolution qu'on a eue, tu sais, on fait de la peinture, on fait de la sculpture, on fait de la robotisation, tu sais, on fait tellement de choses, là, on fait de la couture, tu sais, parce que tout est fait à la main. Mm-hmm. Fait que t'es vraiment comme le taxidermiste qui est avec moi, qui est le maître taxidermiste aujourd'hui, qui est Angelo Gagnon. Ça fait 30 ans qu'il travaille pour moi. Angelo, là, il est rendu meilleur que moi, pas mal.
Uh-huh.
Parce que moi, je gère l'entreprise parce qu'on a beaucoup de volets dans l'entreprise. Mais lui, il est maître taxidermiste pour Bilodo Canada. Fait que ça, okay, ce gars-là, ce petit gars-là, il... puis il y a l'apprêteur de peau là, qui fait ça pour lui, il fait 29 ans qu'il travaille pour moi.
Okay.
Fait qu'ici, on a une équipe avec, je dis souvent,
ben,
Bilodo, ça s'est rendu là. Pas à cause de Mario Bilodo, à cause de tous les gens qu'il y a eu autour, comme je dis tout le temps. Ce qui fait la force d'une entreprise puis d'un entrepreneur, c'est quand même de quelle façon tu peux t'entourer.
Ben oui, puis quand t'es lieutenant ou t'es bras droit, ça fait presque 30 ans ou 30 ans qu'ils sont avec toi, ça veut dire que ça fonctionne puis que c'est agréable de travailler avec toi aussi.
Ben oui, ben, je pense qu'ils ont cru à ma folie en lui disant, en lui faisant croire. Pas des menteries, en lui disant, gars, on est là aujourd'hui, demain on va être là, puis après-demain on va être là. Puis ça, moi, ça a toujours été ma vision. Tu sais, ce que je vais être, moi, je le voyais dans ma tête, mais je lui disais pas, je le disais surtout pas à ma contrôleur, parce qu'elle disait, t'es fou. Tu sais, la salle qu'on vient de préparer, là, ouais. c'est une salle, comme on vient d'investir 700 000 dans une salle d'exposition, quand tu travailles, puis ça ne fait pas d'hier que je pense à ça, là, ce projet-là, là, ça fait au moins 15 ans que je suis à table.
OK.
Oui, puis je le répète, puis on va le faire, puis on va le faire, puis on va le faire. Puis je me disais tout le temps, on va le faire avant de partir. Parce que je me disais, je veux laisser quelque chose dans le secteur, je veux laisser quelque chose de nous autres, qui a tout tellement mis d'efforts jour après jour pour monter une entreprise comme on a fait là. Puis je ne l'ai pas fait tout seul, là. Je l'ai fait avec l'équipe qui sont là. Des gens de 10 ans et plus, ici, là, il y en a probablement plus que la moitié. Ouais. Que c'est des gens de 10 ans et plus qui travaillent avec moi. Fait qu'il faut croire au gars qui est là. Puis
il faut être heureux dans son travail.
Ben, oui, puis là. Après ça, il faut lui montrer que ça avance. Mm-hmm. Tu sais, quand tu fais... Tu sais, quand on a commencé dans un tout petit atelier, puis...
Est-ce que c'était déjà en Normandie ou t'étais à Saint-Thomas?
J'étais à Saint-Thomas, puis j'ai déménagé. J'ai commencé, ma première entreprise était à Saint-Thomas, puis j'ai déménagé en Normandie. Après ça...
Dans quelle année quand tu déménages en Normandie?
À peu près dans les années 70.
OK.
70, 72, je pense que j'ai déménagé en Normandie. 72, 13, je ne peux pas te dire exact. Ouais, ouais. Là. Mais dans ces années-là, j'ai déménagé en Normandie. Puis là, tranquillement, j'ai évolué dans la grosseur de l'entreprise. J'ai une couturière, deux couturières. Puis là, on va dire, on est rendu 85.
Parce que tu, nous, dans la région, on est fiers de toi parce que t'es un gars d'ici qui fait une méga entreprise, mais chez nous. Mais à l'époque où tu pars de Saint-Thomas, tu t'en viens en Normandin, tu n'as pas eu le goût de dire ben je vais m'en aller dans le plus proche des grands centres pour, au niveau de l'entreprise. C'est quoi qui a motivé le choix de rester dans le nord du lac?
Non, j'étais un amoureux de ma place, puis je le dis souvent. Moi, j'ai voyagé énormément à cause de l'entreprise. Ça m'a fait énormément. J'ai fait le Japon, j'ai fait énormément de villes, puis de places, puis de pays. J'étais allé à plusieurs places. Ça m'a amené à aller à plusieurs. J'étais allé en France, en Europe, j'étais allé en Belgique, j'étais allé plusieurs places. Puis là, je me dis tout le temps, toutes les fois que je revenais, je me disais non. La plus belle place pour vivre au monde, là, c'est au lac Saint-Jean. Puis j'arrêtais pas de le dire, puis je le dis encore. C'était proximité, les gens sont fins.
Tes territoires aussi de crabes, j'imagine.
Je me disais, la nature, c'est de faire le métier que je fais là, c'est la nature. Moi, la nature est toujours dans ma vie, tout le temps, tout le temps. J'ai deux pourvoiries. Je rencontre énormément d'étrangers. Parce que mes pourvoiries, c'est pas beaucoup de Québécois. Oui, depuis la pandémie, on a 2 ans qu'on a eu les Québécois. Puis encore, je suis très heureux de ça aussi parce que ça fonctionne bien. Mais je me dis, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ma vie. Qui nous a fait évoluer, pas rien que moi, qui a fait évoluer l'entreprise, parce que aujourd'hui là, c'est la proximité, là, c'est tout.
Tout est plus facile. Ben, à
si t'es le moindrement allumé, puis que t'as un petit peu les moyens, t'es capable de dire avec un site internet, avec on est je sais pas comment de site nous autres, puis qu'on est capable de se faire voir, puis qu'on est capable de se faire connaître. Tu sais, dans le domaine du cinéma, se faire connaître, c'est pas si évident que ça, parce que c'est un domaine qui est fermé.
Ouais.
Puis c'est un domaine aussi que tu peux pas, t'as pas de marge, beaucoup d'erreurs. Puis il faut que tu sois efficace. L'efficacité pour le cinéma, c'est la chose la plus importante parce que ça, faut que tu sois capable de lui livrer la marchandise dans un temps record. Tu sais, moi, je regarde rien que quand le réalisateur ça doit être probablement un accessoriste qui nous a téléphoné. Je me rappelle plus du nom. Quand on a fait Les Pays d'en haut, la dernière version, la fille, elle avait besoin du remords qu'on voit que Bidou donne à sa blonde. Là. Fait que le remords, ils m'ont appelé le jeudi, il fallait que ça parte là. Elle dit, Mario, t'as-tu ça? Je l'ai fait, c'est moi-même qui l'ai fait. J'étais allé chercher une peau dans la chambre à fourrure. Je l'ai fait là, sur le champ. Puis le soir, à 5 heures, il était parti pour là-bas. Là.
OK.
Puis ça, c'est ça, le cinéma.
Ben oui.
Si tu ne vires pas de bord, puis tu n'as pas une équipe autour de toi, puis tu n'as pas l'expertise. Nous autres, ce qui fait notre force ici, année après année, c'est l'expertise des gens. Tu sais, quand on fait un meeting, on a un gars comme Angelo qui a 30 ans d'expérience dans toutes sortes de domaines, de la sculpture. Tu sais, on s'assied nous autres, puis le lendemain, on est en train de créer. Okay. C'est ça, la force qui fait qu'on a... Une belle aventure, si tu veux, d'avoir tourné dans à peu près 40 films. Là, sur des accessoires, des pots, on a fait des tambours. Quand tu viens et tu viens visiter la salle présentement, là, quand tu viens visiter ça, le reportage qu'il y a dans la salle, il y a un petit film, puis tu vois toutes les productions dans lesquelles on a travaillé une partie, pas toutes, parce que ce serait trop long. Une partie, on a tous les extraits, où c'est qu'on a travaillé et qu'on a fait dans le domaine du cinéma. C'est ça qu'on présente là. Puis dans cette salle-là, ce ne sera pas toujours ça qu'on va présenter. On va présenter toutes d'autres. Je vais faire venir des conférenciers, des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, que j'aime, que je veux faire découvrir. Ah, tu sais, des Mario Cyr, des gars de même que j'ai rencontrés dans ma vie puis que je veux faire... Tu sais, que je veux faire rencontrer, j'ai rencontré des gars qui travaillent dans le Grand Nord avec les ours polaires, qui ont des pourvoiries là-bas, puis c'est des maniaques dans le domaine. Fait que ces gens-là sont intéressants à entendre parler. Fait que ça, c'est le fun.
Ouais,
c'est des rencontres. C'est des rencontres extraordinaires, puis je veux les faire vivre, puis je veux les faire découvrir.
Puis le Mario Bilodeau, là, qui a 16 ans, là, mets-toi dans le truc, qui a 16 ans sur la photo derrière moi, là.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as atteint ton rêve ou tu l'as dépassé? C'était quoi tes attentes à ce moment-là? T'sais, quand tu dis, moi, je pars en entreprise, est-ce que c'était juste, je veux réussir à vivre de ça ou tu voyais plus grand déjà à cette époque-là?
Non, l'attente, je te le dis bien franchement, dans la période où on était, nous autres, dans cette période-là, toutes les jeunes vont le dire, il n'y avait pas de travail. Il y avait zéro travail, on n'avait pas de place. Nous autres, on avait un moulin ici, il n'y avait pas de place pour le moulin ici pour les jeunes. Il n'y avait pratiquement rien dans cette période. C'est dur à croire aujourd'hui, là, avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est dur à croire aujourd'hui. Mais dans cette période-là, il n'y avait rien. Moi, ce que je voulais faire, c'était de vivre et de gagner ma vie.
Okay.
Moi, c'était ça. Mais gagner de ma vie dans ce que j'aimais. Tu sais, j'ai rien contre ceux qui travaillent dans les usines, ces affaires-là, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Parce que mon père travaillait dans une usine, puis il y en a beaucoup de mon entourage qui travaillaient à l'usine, dans les usines aux alentours, Gérardville, puis beaucoup, puis sur le transport, puis la forêt. Mais moi, j'ai toujours été dans la création, créatif, une imagination extraordinaire.
T'es artistique, là, t'es un artiste.
Ouais, j'aime ça découvrir, puis j'aime ça faire des rencontres. Fait que ça, là, moi, travailler dans une usine, pour moi, c'était... No way, c'était aucune dans une... Je dois dire, je me rappelle d'avoir rencontré mon père dans son bureau, puis j'avais dit, pas là, je sais pas, mais je suis pas vaillant, là, mais moi, là, tu sais, là, je savais pas quoi. Parce que lui, il me faisait travailler fin de semaine, le vendredi soir à l'usine, puis moi, je fais qui c'est ça, là, je me disais. Non, c'était pas fait pour moi. Puis là, ça me faisait de la peine parce que mon père, il faisait tout pour que je puisse travailler. Mais c'était vraiment pas moi. Puis là, un moment donné, on a eu une discussion. Puis c'est ça, c'était la discussion qu'on avait eue ensemble, c'était ça. Et non, Mario dit, c'est parce que t'aimes pas ça, c'est pas ton domaine. Puis là, ça m'a fait m'amener réaliser que je voulais m'en aller vers ça tranquillement, même si le monde pensait que j'étais un peu fou. Mais il faut être un peu fou, des fois, je pense, pour réaliser les choses.
Je pense qu'il faut sortir des paradigmes. Au départ, c'est toi qui vas trapper, tu ramasses tes peaux, tu fais ta taxidermie, tu tannes les peaux, etc. Puis à un moment donné, ça se met à rouler, là, tes affaires. Est-ce que tu continues à dire, est-ce que c'est Mario qui fait, ben là, il faut que je mette plus de trappes, il faut que j'étende mon territoire, ou à un moment donné...
Pour faire affaire avec les trappeurs.
Ouais, c'est ça.
Moi, je fais... Quand tu travailles dans ce domaine-là, tu trappes pas, c'est pas toi. Au début, quand t'es flow, oui, quand t'es jeune, tu ramasses tes peaux, puis ça, c'est correct. Mais quand tu commences à développer, comme pour fabrication, la fabrication, quand elle a commencé, là, t'achètes, là. Okay. T'achètes des trappeurs, t'achètes des chasseurs, t'achètes des maisons d'enquin. C'est là que tu commences, parce que du volume, là, on commence à en avoir. Quand t'as du moins de temps de peau, mais il faut que t'es capable de les procurer assez rapidement. Puis après ça, il faut que tu te stockes, puis ça coûte... Puis moi, la plus belle rencontre que j'ai faite dans cette période-là, Quand j'ai tombé, j'ai commencé ma business, j'ai rencontré M. Robertson, René Robertson, de Massage. Il y a Pointe Bleue dans cette période. M. Robertson, ça a été pour moi un mentor extraordinaire, une personne que tous les entrepreneurs voudraient rencontrer dans sa vie. Tu sais, moi, il m'a tout montré son savoir, sa femme. J'allais dans son atelier, on se rencontrait. Moi, dans ce temps-là, j'étais à Saint-Thomas. On se rencontrait à 5h30, 6h le matin. Parce que lui, il était très occupé. T'as-tu pensé à l'heure que je me levais? Là, c'est une heure de route. C'est une heure de route. Parce que lui, il ne pouvait pas me rencontrer soit le matin ou soit le soir. Parce que lui, dans sa journée, il était trop occupé. Il achetait beaucoup de fourrure. Puis lui, il a cru en moi tout de suite. Ça a comme... Tu sais, des gens que tu rencontres, que ça kick, ça fait... Bien, il m'a pris son aile, puis j'étais comme son garçon. Il est identique. C'est, tu sais, il m'a prêté de l'argent pour commencer. Il m'a aidé. Bien... Moi, je dis qu'un gars qui te prête 250 000 piastres d'argent que j'ai déjà dû ça, ce gars-là, dans cette période-là, puis qui m'a aidé à monter ça tranquillement, puis qu'on a fait ça, là, sur un bout de papier, là.
Okay.
C'était carrément comme ça.
Ouais, il faisait confiance.
Il avait son livre, puis là, il me tenait ça, puis moi, quand je ramenais son argent, il me reprêtait, puis il m'a grimpé comme ça à travers les années, puis j'ai réussi à développer avec lui, parce que... Dans le domaine où on est, ça prend un inventaire extraordinaire. Tu sais, quand tu fais le tour des ateliers, ici, tu t'aperçois que ça prend beaucoup de choses. Puis l'expertise qu'on a développée autour de cet inventaire-là, c'est pour ça qu'on a réussi dans le cinéma.
Parce que l'inventaire, là, corrige-moi si je me trompe, mais toi, mettons, il doit y avoir une période où tu as le droit de trapper l'ours, mettons. Mm-hmm. Fait que là, il faut que tu te ramasses des peaux d'ours parce que la période où tu ne pourras pas en trapper, tu as besoin d'en avoir. Donc, c'est un investissement, il faut que tu en aies.
Il faut que tu en aies, quasiment un an d'avance de ce que tu as besoin. Comme là, comme on est rendu là, nous autres, okay. Pour le loup marin, on est le plus gros acheteur de peaux de loup marin au Canada. Fait que ça, l'usine avec qui on travaille, il faut qu'eux autres, ils ramassent les peaux, puis que les chasseurs les tuent, ramassent les peaux. Après ça, il faut qu'ils les apprêtent. Après ça, ils envoient les sites. Ça, nous autres, on les transforme. Fait que ça prend un inventaire énorme. Mais ce qui nous a permis aussi, dans le domaine du cinéma et dans ces choses-là, de l'avoir.
Oui.
Parce que si tu ne l'as
ça
pas, tu peux pas, ben oui. Puis tu ne retrouveras jamais l'inventaire à nulle part ailleurs qu'à part ici, probablement dans tout le Canada.
Okay.
Tu sais, l'inventaire de fourrure, l'inventaire de peau, les os, les griffes, les dents, les huiles, les graisses.
Ben, oui,
c'est tout, tout et tout. On ramasse tout, on récupère tout de A à Z. C'est pour ça que ce côté-là, que nous autres, depuis à peu près une quinzaine d'années, on se dit souvent, ce qu'on a innové dans ce domaine-là, c'est ce qui a fait qu'on est avancé comme ça, c'est ce qu'on a innové, c'est parce que c'est la récupération. On avait une éthique vraiment, parce que moi, j'ai passé les airs de Brigitte Bardot, là.
Oui, il faut vraiment oublier ça.
Tu sais, moi, là, j'avais 36 ans que je suis là-dedans. Là. Moi, l'ère de l'antifourrure puis Brigitte Bardot, là, j'ai tout connu ça. Les vagues, puis encore là, la fourrure, tu sais, il faut vraiment se défendre pour le dire que c'est un produit le plus écologique au monde à porter.
Dirais-tu que c'est parce que ton expertise, elle vient de quelqu'un des Premières Nations qui, eux, historiquement, récupéraient tout, qui t'a montré à faire ça?
Oui, puis c'était... Moi, j'y croyais dans ce sens-là. Moi, oui. Personnellement, j'y croyais dans le sens de dire la vérité aux gens. Tu sais, si tu arrives, tu dis... Tu sais, j'ai vraiment rien caché. C'est ça, ça, ça. Les Inuits dans le Nord, ils tuent sur les ours polaires, là, parce qu'ils en mangent.
Mm-hmm.
Puis avec ça, ça leur donne un revenu quand ils vendent la peau. Puis ça, c'est un revenu pour eux autres. C'est un peu la même chose pour nous autres quand on tue un orignal ou un chevreuil.
Ben oui.
C'est ça, il faut se mettre dans la peau de ces gens-là qui sont chez eux. C'est ce que je reproche souvent aux étrangers quand ils viennent chez nous. Moi, je dis tout le temps, quand je fais une interview, quand j'ai une tribune pour pouvoir l'expliquer, je dis souvent, les gens d'ailleurs qui ont pu ce qu'on a viennent nous dire quoi faire chez nous. Puis nous autres, les Québécois, on est un peu comme des autruches. On dirait qu'on se ferme à ça. À place de se défendre, on se cache. Mais moi, c'est le contraire. Moi, quand quelqu'un vient ici et qu'il veut parler d'un antifourreux, je vais le recevoir. On va discuter avec lui. C'est quelqu'un qui est intelligent puis qui est capable de comprendre mon point de vue. Puis là, moi, je vais comprendre le sien. Moi, ça ne me fait rien de discuter. Je suis ouvert à toutes ces choses-là. J'ai pas de misère à discuter avec ces gens-là puis de dire « Oui, toi, t'es peut-être un végétarien, t'es un granola, t'es un genre de personne. » Puis je respecte ça. Je respecte ça à ça. Mais pourquoi toi, tu respectes pas ma façon comme moi je le vois puis mon expertise? Pourquoi je te dis que pour moi, c'est plus important dans mes valeurs à moi que toi? Parce que, comme tu disais tantôt, les Autochtones, tu sais, j'en côtoie beaucoup. Je suis un gars qui passe pratiquement tout son temps ici et dans le bois. Fait que je peux dire que j'en connais énormément là-dessus avec au fil des années des rencontres que j'ai faites puis les expériences aussi que j'ai faites puis que j'ai vécues.
Oui. Et comment tu qualifierais la pratique? T'sais, entre tes débuts puis aujourd'hui, tu disais il y a eu une évolution d'expertise.
Ah oui.
Là, aujourd'hui, tu perds plus rien.
Nous autres, on récupère. Je te dirais, là, comme là, on est en train de travailler avec un petit gars d'Alma. On est en train de travailler l'asclépiade pour être capable de... C'est un produit, une fibre naturelle pour mettre dans nos vêtements. On a commencé à travailler avec lui, ça fait un an et demi. Puis ça va très bien, ce produit-là. Tu sais, on aime les choses les plus naturelles possibles. On est là-dedans, on évolue énormément là-dedans. Tu sais, les graisses, les huiles, la laine de fourrure, c'est nous autres qui l'a inventé. Là.
Okay.
Ça a été inventé par Bilodeau Canada. Puis là, on était en train de travailler avec le cégep de Saint-Félicien, avec le CTTT qui est à Pointe-Bleue, à Mastoyache. On était en train de travailler avec eux autres des projets pour le cuir, pour toutes sortes de produits animaux qui sont jetés. Qui sont dans la poubelle, qui se ramassent dans la poubelle. Nous, on est en train de travailler ça pour sortir des nouveaux produits.
Pourquoi qu'il n'y a plus rien dans la poubelle?
Ben, c'est nous autres, on se dit, on a un produit, on est les gens les plus écologiques. Puis c'est vrai. Puis là, on le démontre de plus en plus, depuis une quinzaine d'années. Puis ça, c'est ce que les gens ne savent pas. C'est ça qu'on veut montrer au monde. Tu sais, quand on veut montrer, regarde, on est rendu là aujourd'hui que la fourrure. Là. Avant ça, c'était ça, là. Mais il y a une évolution qui s'est faite là-dedans. Puis ça, il faut être capable de l'expliquer puis de le montrer. Parce que ce qui est le plus dur que j'ai trouvé dans le domaine de la fourrure, c'est qu'il n'y avait pas eu d'évolution. On est resté au manteau de fourrure, puis on aurait dit qu'à cause que ça se faisait à Montréal, dans un grand centre, là, que les gens n'ont pas innové. Mais moi, c'est ça que j'ai démontré, qu'on était capable d'innover dans ce produit-là. Puis moi, j'y crois, c'est mes veines. Ouais. C'est ça, moi. C'est la fourrure, c'est moi. Les produits naturels, c'est moi. Je suis un maniaque champignon. Tout ce qu'il y a de produits naturels en forêt, les fleurs, tout ce qui entoure ça, ça m'inspire. Fait que je veux pas la fourrure, ça fait partie de ça. Puis c'est avec ça que je gagne ma vie, qu'on gagne notre vie, certes.
Puis les anti-fourrures, ils vont souvent avoir le discours de la cruauté animale. Mm. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
Ben oui, moi je dis que ça a eu du bon. Moi, la cruauté animale, j'ai... Puis encore aujourd'hui, pogner un ours au collège, je le fais pas parce que j'aime pas ça. Même si on va voir les collèges à tous les jours, je trouve que c'est... Déjà là, j'aime pas la façon de le faire. J'aime mieux un piège humanitaire, un piège qui tue suite.
C'est quoi?
Parce qu'un piège humanitaire, c'est les pièges qui sont... C'est garanti que l'animal, en dedans de quelques secondes, il meurt.
OK.
Tu sais, mettons, tu prends un conibir, tu rentres un remusqué dans un conibir, instantanément, il meurt. Il rentre une marque, instantanément, il meurt. Ça lui casse la colonne, ça lui casse en arrière du cou. Instantanément, il meurt. Moi, ça, j'aime la pratique de cette façon-là. Mais si on n'aurait pas eu les antifourrures, on serait pas rendu là à l'évolution aujourd'hui.
On serait encore au collège.
Ben, c'est ça. Fait que des Brigitte Bardot de ce monde, c'est comme un peu pour la forêt avec Desjardins. Tu sais, c'est ça qu'il faut être capable de dire oui. Mais s'il n'aurait pas été là, Desjardins, pour les allumer, pour dire, regarde, la forêt, là, tantôt, il n'y en a plus, là. Puis que moi, j'avais déjà dit, v'là plusieurs années, v'là peut-être 30 ans, j'avais déjà dit ça à une maison qui travaillait dans une série. J'ai dit, de la forêt, il n'y en a plus. Hey, mais regarde, t'es malade, tu connais rien là-dedans, c'est pas ton domaine, ta. Puis après ça, il a été assez humble pour venir me dire après, peut-être une dizaine d'années après, pour s'apercevoir que c'est vrai que ce que j'avais dit, parce que moi, je faisais de l'avion, parce que j'allais souvent en forêt. Puis je lui ai dit, de la forêt, là, il n'y en a plus, là. Parce que quand t'arrives à Toundra, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de forêt, là. Les arbres sont gros de même, puis on s'entend.
Ouais.
Fait que c'est, quand tu connais ça, puis tu évolues là-dedans, ben, tu t'aperçois que... C'est le temps qu'il y ait des sons de cloche. Ben, c'était la même affaire dans le domaine de la fourrure. Moi, ces gens-là, je les en veux pas. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu sois capable aussi. C'est une matière qu'on a puis qui est renouvelable. Faut l'apprendre intelligemment puis être capable de s'en servir intelligemment. C'est ce que je reproche tout le temps aux étrangers qui viennent nous dire « Non, portez pas de fourrure, les embargos. » Ils comprennent pas notre vraie situation, notre vraie vie ici. Puis de quelle façon nous autres on vit? C'est comme dans le Nord, quand ils parlent des ours polaires. Blablabla, il n'y a plus d'ours polaires. Ben, va dans le Nord. Puis c'est pas vrai. Il y en a des ours polaires. C'est contrôlé. C'est les Inuits. C'est seulement les Inuits qu'on doit déchasser. Puis ça fait partie de leurs mœurs. Puis c'est contrôlé. Fait que ils mangent de ça, puis ils gagnent leur vie avec ça, parce qu'ils font des écrans avec l'argent, avec les pots. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de comprendre. Évoluer. Évoluer. Puis ça, je dis ça, évoluer, c'est évoluer dans le domaine. Non, puis dans le domaine de la fourrure, ça n'a pas évolué énormément. C'est ce que nous autres, on a réussi à faire avec le temps.
Oui. Puis aussi, tu sais, quand quelqu'un dit on va enlever la fourrure, puis là, il la remplace par de la fourrure synthétique, c'est encore moins bon pour l'environnement, c'est en plastique.
C'est terrible. C'est des choses.
Si on est d'accord, je me trompe pas.
Oui, c'est des choses. Moi, je trouve que c'est la chose la plus aberrante qu'il n'y a pas. Ça... C'est ça qu'il n'y a pas de logique. Moi, je veux que la matière est là. Est renouvelable, puis il faut que tu l'utilises. Moi, je me dis, il faut l'utiliser. Oui, c'est vrai qu'il faut l'utiliser intelligemment. On a des quotas, on a des façons de faire, mais il faut l'utiliser. Un castor, là, si tu le prends pas, là, puis il y a des castors, on peut dire, on peut prendre ce bon exemple-là, parce que les chemins, puis toute la quête des compagnies forestières, tous ceux qui travaillent en forêt, ils ont des castors, vu qu'il y en a tellement, c'est rendu un problème pour tout.
Okay.
Fait que ces bêtes-là, il faut les utiliser, parce que dans 6-7 ans, ils vont mourir, puis après ça, ils vont se décomposer dans leur cabane, puis c'est fini. À place de l'avoir utilisé, puis à place d'avoir pris des matières qui viennent de la Chine, puis que t'as ramené ici, puis que c'est tout pollué au bout qui est fait avec.
Oui, puis là-bas, c'est des enfants qui travaillent dans des usines dans des conditions exécrables.
C'est terrible. Mais ici, au Québec, je te dirais, dans à peu près toutes les régions du Québec, il n'y en a pas de problème. Les gens sont comprennent ça. Tu vas arriver dans les grandes villes, c'est là que le problème y est. Les gens, on dirait qu'ils n'ont pas eu d'ouverture d'esprit ou sont mal informés. Mais de plus en plus, moi, c'est moins pire. De plus en plus, là. Ouais. Moi, j'avance dans le temps, là. Puis j'ai vu toute l'évolution de ça. Puis là, j'avance, puis je discute. Puis là, les gens... Fait que, tu sais, les gens qui viennent visiter ici, on y en a énormément. Puis là, tu te dis, à discuter avec eux autres, j'ai dit, s'ils ne seraient pas intéressés, ils ne viendraient pas là, visiter, ils ne viendraient pas nous voir, ils ne viendraient pas voir.
T'en as-tu des gens fâchés qui sont pas d'accord, qui viennent visiter pareil?
Moi, des gens fâchés, ça m'est arrivé une fois dans une exposition à Chicoutimi. J'avais, dans ce temps-là, peut-être 22-23 ans. Je vendais au Salon des métiers d'art.
Okay.
il est arrivé une espèce de femme qui me regardait de loin, puis je voyais que ça n'avait pas l'air de faire ça, son affaire. La madame, elle a attendu qu'il y ait mon kiosque, c'est bien plein de monde pour venir me taper dessus. En essayant de me parler de ça. Peut-être un tueur, Je dis, madame, venez ici. Il a fait tasser le monde. J'ai dit, écoutez, madame, venez ici, puis venez me voir dans mon kiosque. Fait que la madame, je l'ai fait rencontrer. Mais la madame n'était pas chanceuse, parce qu'elle avait des bottes de cuir, une ceinture de cuir, puis un sac à main en cuir. Fait que là, j'ai dit, madame, j'ai dit, écoutez, là, vous me blastez à cause que j'ai de la fourrure, peut-être, mais j'ai dit, vous, là, vous avez vu comment vous êtes vêtu aujourd'hui? Là, elle me regarde, ma mère. Je lui explique ça, j'ai dit, ce que vous avez sur le dos, là, c'est un côte de cuir que vous avez sur le dos, c'est un cuir, là, là. De où il vient, vous pensez? La ceinture que vous portez, de où elle vient, vous pensez? Puis les bottes que vous avez. En tout cas, là, elle est venue rouge. Quand elle a eu l'oché, là, tu sais, elle pensait de pogner le petit gars de 24 années, là, elle pensait de le taper, là, puis de me faire probablement une mauvaise publicité. Mais les gens autour, là, ben, ils ont applaudi. Ils ont applaudi quand la madame est venue rouge de même puis qu'elle est partie.
Ça, c'est drôle.
C'est ça aussi. Il faut pas se cacher. Il faut être capable d'expliquer. Je respecte les gens qui n'aiment pas ça, mais qu'ils respectent la façon que nous autres on vit. Parce que nous autres, on a notre réalité, c'est ça. La leur est peut-être, tu sais, quand tu vis dans le béton toute ta vie, puis que tu n'as jamais évolué, tu n'as jamais voulu voir ce qui se passait dans les régions, tu n'as jamais voulu voir la réalité des gens, puis que, surtout, que tu viens d'un autre pays, puis que tu viens dicter. Tu sais, Paul McCartney, dans ces périodes-là, Brigitte Bardot, puis qui viennent chez vous te dicter quoi faire. Oui, c'est des bons sons de cloche, mais à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Oui, on a évolué comme on a évolué en forêt avec nos coupes de bois, on a évolué avec la façon de planter, de la façon de régénérer la forêt. Puis il fallait que ça se fasse. Moi, le premier, j'étais pour ça. Puis la même affaire pour la fourrure, je suis le premier à vouloir la conserver, puis à vouloir que ça évolue. Puis que dans 20 ans, que tous les Québécois soient fiers de porter un chapeau de fourrure puis de porter de la fourrure. C'est une fierté d'avoir ce produit-là, parce qu'on est à peu près les seuls qui peuvent dire qu'on a une faune et une flore qui devient en santé, qui a peut-être déjà eu des petites brèches, mais ça veut dire ça que là, on a probablement, à travers le monde, la plus belle place de gestion de la faune au monde.
Mais ça
se dit jamais. Jamais personne qui dit ça. Jamais personne ne t'entend dire ça, sauf moi qui dis tout le temps ça. On a des biologistes avec qui on travaille, qui font de la gestion. On a des gens qui font des inventaires. Tu sais, qu'on sait que à un moment donné, le lynx est venu très bas. Parce que les gens attrapaient le lynx parce qu'il était payant. Il est venu très bas. À un moment donné, ils l'ont arrêté complètement dans telle zone. À un moment donné, ils en ont mis deux. Puis à force de faire ça, c'est un peu comme les orignaux. Quand ils ont fait ça, aujourd'hui, le lynx, il n'a plus de quota. Un trappeur peut poigner le nombre de lynx qu'il veut parce que...
On y a fait attention.
On y a fait attention, puis on a évolué dans la façon de faire. Avec les systèmes qu'on a avec les colliers émetteurs, puis tout, ils ont une façon de faire que je trouve de valeur qui n'est pas assez... On défend pas ça politiquement. On n'entend quasiment pas parler. Parce que politiquement, quelqu'un qui parle de la fourrure, tu le vois partir.
Bien, c'est parce que politiquement aussi, la majorité des électeurs sont dans les grands centres. Ouais. Fait que ils ont peut-être moins d'intérêt.
Ben non, parce que ils veulent pas le défendre. Ouais. Mais c'est une autre affaire que si, à un moment donné, il n'y a pas des gens qui défendent ça, que ça va se perdre. Ça va perdre. Puis il faut vraiment oublier, là, on a été colonisés par quoi? T'es tchit, toi. Puis moi, je tchit à cause de quoi? À cause de la fourrure. Ça, il y a beaucoup de monde qui le savent pas, mais c'est carrément ça. La route de la fourrure a passé ici, puis on est tout de suite, les Français ont arrivé ici parce que toi, t'es d'origine probablement française, puis moi, je le suis. Fait que les gens, tu sais, il faut avoir évolué un peu, tu sais. Il faut que Desjardins, quand il est arrivé ici, puis qu'il est allé planter au bout des terres pour être capable que les États-Unis embarquent pas chez nous pour être capable de garder notre fourrure. C'est ça, ça venait de partout, là. Là, à un moment donné, ces gens-là, ils sont aperçus, puis là, ils sont allés mettre les barrières, limites. Les limites. Mais ça, l'histoire aussi, là, il faut la connaître un peu.
Oui, c'est clair.
À chacun ses jeux, c'est une émission où ce que moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur, Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux.
T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les deux premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça, ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbo-Mistassini pour seulement 3$ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte de différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.
Ben là, est-ce que tu trappes encore pour le plaisir? Est-ce
oui,
que tu fais encore ça pour le plaisir?
Un territoire de trappe. J'ai deux pourvoiries.
Oui, c'est ça. Les pourvoiries, c'est arrivé plus tard.
Je m'amuse, oui. Les pourvoiries, c'est ma sortie. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'est pour ma sortie. Puis je veux faire une pourvoirie à... C'est pas un volume que je veux, parce que moi, c'est pas rien que la chasse, c'est pas rien que la pêche. C'est une expérience de nature. C'est ce qu'on fait et ce qu'on veut pratiquer dans le futur, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent avec moi. C'est de faire découvrir notre région, notre territoire, notre faune, notre flore. Puis après ça, le beau territoire que j'ai acquis, la pourvoirie d'Anville, c'est un secteur extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui sont montrées, comme encore la semaine dernière, j'ai trouvé une ouache pour les ours. Tu sais, des choses même que je vois montrer au monde, c'est quoi, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, comme avec les ours hibernes. Après ça, des grottes, j'ai trouvé une grotte sur le territoire.
Ah, wow.
Toutes sortes de choses même que je trouve sur le territoire pour être capable d'amener les gens. Oui, j'aime la chasse, j'aime la pêche, mais j'aime plus le pratiquer personnellement, j'aime le faire vivre aux autres.
Okay.
C'est ça.
C'est le don de...
Ouais, moi, j'aime la pêche, j'aime ça, l'en prendre, j'aime ça, montrer mon expérience de la pêche avec les gens avec qui je suis. 90% que je pêche pas. J'installe les gens puis je pêche.
Je leur explique...
Je leur explique la façon, les méthodes, les trucs, les accessoires à prendre. Puis la chasse, c'est la même affaire. Je guide tout le temps. Je chasse plus depuis... Je chasse à peu près plus, ça fait longtemps. Je vais avec les gens pour vivre une expérience... Un gars qui n'a jamais chassé, qui n'a jamais tué un orignal, qui n'a jamais tué un ours, mais de vivre une expérience avec les gens qui aiment ça, qui sont passionnés par ça, je pense que pour eux autres, de vivre ça, c'est ils s'en rappellent. Tu sais, tu as tué ton premier orignal, tu as tué ton premier ours, mais tu te rappelles de ça longtemps. Parce que c'est des expériences qui sont intéressantes. Tu sais, je regardais Samuel, mon neveu, qui était avec moi dans la pourvoirie. L'année passée, il a fait vivre une affaire extraordinaire à une petite fille. 24 ans, elle chassait le chevreuil, il n'avait jamais chassé l'orignal. Le dernier matin, avant qu'elle parte, elle a tué un orignal à 17 pieds d'elle. Mmh. Ouais, elle a su le corps à 17 pieds. Je peux vous dire que pour un chasseur, c'est énorme. Mais pour une petite fille qui n'avait jamais chassé, c'est encore plus. Moi, j'ai vu le sourire de cette petite fille-là, quand j'arrivais sur place, aller jusqu'à temps qu'elle parte. C'était un sourire qui était marqué là. Ça va toujours être dans sa tête. Tu sais, c'est ça qu'on aime faire vivre, des expériences comme ça. Mais autant dans la question nature, point que la chasse par la pêche, question nature de randonnée de motoneige, de faire un petit shore lunge, de se tenter en hiver, de coucher à l'extérieur en plein hiver, ce que nous autres on fait, puis que les gens souvent, ça y sent. Hein? Tu peux pas coucher à moins 25, à moins 30 dehors. Ben oui. Fait que là, ils ont un petit abri de fortune, puis on leur explique ça, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Ben ça, c'est faire vivre des affaires à des Français, à des Américains, à des gens qui n'ont jamais fait ça, à des Européens qui n'ont jamais vu ça. Mais que oui, ça se fait.
Faire réaliser. Puis même aux Québécois.
Ben oui.
Là, qui viennent d'ailleurs.
Ben qui n'ont jamais fait ça.
Ici, c'est sûr qu'on a beaucoup de chasseurs, des gens qui vont en forêt, mais il y a beaucoup de Québécois
qui sont
loin de la réalité.
Ben oui, c'est sûr.
Toi, tu as travaillé beaucoup de types d'animaux différents. Est-ce qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres au niveau
Le poisson, les animaux à écailles, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Il faut que tu refasses toute la peinture. Tu fasses souvent le moulage de la tête. Comme un poisson, on ne garde pas la vraie tête. On fait le moulage, on prend la vraie tête, on la remoule.
Okay.
C'est pour ça que quand je dis plusieurs métiers, là, il y a énormément de métiers là-dedans. Parce que tu moules, il faut que tu aies des connaissances en moulage, en sorte de plastique que tu utilises pour ça, de résine. En tout cas, il y a beaucoup d'expertise. Puis ça, le poisson, c'est un. Parce qu'il faut tout que tu leur peintures de A à Z. Il faut que tu aies le talent avec un airbrush pour être capable de ramener les mêmes couleurs. Fait que le gars va t'amener sa photo, puis là, faut que tu fais ça là, puis tu le refais. Tu sais, c'est vraiment un art, faire ça. Puis de faire ça jour après jour, pendant année après année, ça prend une concentration énorme, puis ça prend une expertise énorme, puis ça prend une ambiance de travail. Moi, je peux te dire qu'Angelo, en bas, là, tu vas aller le voir tantôt. Il y a une vidéo de chasse sur son écran. Là. Il y a un gros écran qui travaille. Là. Puis là, tu entends Michel Breton en arrière qui est en train d'y expliquer. Puis là, lui, ça s'en motive pour sa chasse cet automne. Lui, c'est à la place d'écouter de la musique. Là. Mais lui, il écoute. Puis ça, là, ça commence, là, je te dirais, au fin août, milieu à août. Puis ça va jusqu'après la chasse. Là. Puis c'est ça qu'on entend dans l'atelier. Là. Puis tous les gars sont autour de lui, puis ils travaillent, toute l'équipe, parce qu'ils sont six dans cette équipe-là. Puis c'est tout ça. Là. Les autres, c'est des vidéos de chasse. Les autres, c'est leur musique. Ouais. Tu sais, l'ambiance de travail, c'est important, parce que quand t'es un passionné de ça, ben...
Puis y a-tu une créature, une bête, ou quelque chose que tu rêverais de faire, tu sais, que t'as jamais touché, puis tu ferais, là, ça peut être un animal exotique, je sais pas.
Oui, là, nous autres, on est... Il y a un gars que j'avais rencontré à l'île d'Orléans, là, à peu près 15 ans. Puis lui, il avait des bisons.
Oh!
Ouais, puis on est allé faire boucherie avec lui, on a récupéré les peaux, lui il récupérait la viande parce qu'il y avait un gros troupeau, puis il y en avait des bêtes et tout.
Oui, c'est gros, disons.
Puis maintenant, on discutait ensemble, là, il m'a posé la même question, puis là, on a parlé. Moi, je veux faire un mammouth. Je veux reconstituer un mammouth. Puis la peau de bison, ça ressemble énormément à la peau de mammouth.
OK.
Fait que là, on veut reconstituer un mammouth grosseur nature. Puis ça... Ça va être une réalisation probablement qui va se faire dans le futur. Années. Parce que ça, c'est l'affaire qui m'écoute depuis longtemps. Pour montrer, parce que je suis allé au musée Ottawa, je suis allé visiter plusieurs affaires. J'ai lu beaucoup là-dessus. Tout me passionne.
T'es un gars curieux, là.
Oui, ça me passionne. Toutes ces choses-là me passionnent. L'histoire me passionne. Tout ce qui est de la nature, de près ou de loin, ça me passionne. On parle de plongée sous-marine pour aller voir les sortes de poissons et découvrir ce qu'il y a dans la mer. Ils découvrent encore des choses qu'on ne connaissait pas. Ça me passionne. Tout me passionne dans ce domaine-là. Puis ça aussi, ça, les bêtes préhistoriques, ça me passionne énormément. Puis ça, je pense que ce sera le fun de reconstituer parce que nous autres, on a l'expertise puis on a le talent et l'équipe pour pouvoir le faire.
Oui.
Puis ça, on veut en faire un pour montrer au monde vraiment la grosseur nature que ça avait. Parce qu'il y a deux, trois sortes de mammouths qui existaient, puis il y a des grosseurs différentes. Là. Fait que là, c'est ça que.
Bien, puis pour ton entreprise, j'imagine que tu as un mammouth dans la cour, c'est la tour du monde aussi. Non, mais tu sais, tout est dans tout.
C'est comme quand on a réalisé la salle qu'on a faite présentement.
Oui, c'est magnifique.
Les gens disent. Tu sais, jamais on aurait pu penser que... C'est sûr, parce que l'investissement qu'il y a là-dedans, c'est énorme. Tu sais, ça prend des gros sous pour réaliser des gros des projets comme ça. Fait que ça, tu peux pas faire ça en mettant ce que tu as fait toute ta vie en péril. Faut que tu fasses ça conjointement. Puis on a un contrôleur, on a des comptables, on a une équipe, parce que Mario, c'est Mario, lui, il a un projet aux 10 minutes. Moi, c'était ça, là. Ah ouais. Moi, les projets d'avance, j'en ai peut-être 10 d'avance, comme je te parle de ce mammouth-là.
Ben, ouais.
Ça fait longtemps qu'on parle de ça, là. Mais un jour. Comme là, il est en train de réaliser une pièce, Angelo, que lui, personnellement, il voulait faire depuis longtemps. Puis justement, hier, il a tourné une petite vidéo pour une pub, là, puis il expliquait ça. Il est en train de faire deux orignaux en train de se battre.
Oh.
Il est en train d'y réaliser, là. Présentement, il est en train de faire ça. Là. Ça va être dans la salle d'ici un mois et demi, là, ça va être dans la salle ici.
Qui achète ça? Là? C'est-tu les musées?
Ah,
c'est-tu
les maisons de décoration, les musées, les magasins de sport, énormément.
Okay.
Comme là, on est en train d'en faire deux pour
la chasse,
Alma, son magasin de Calzenterre. Il va y avoir de très belles pièces qui vont être là. Les cils Baron, les restaurants La Belle et la Bœuf, c'est toute la décoration de tout ça, c'est nous autres qui fait ça. Les maisons là, dans l'Ouest, on fait beaucoup, énormément de décorations. On a fait à peu près 90 têtes naturalisées cette année pour les maisons là, dans l'Ouest. Soit tête d'orignal, wapiti, cerf, bisons, tout des mettre au-dessus des foyers, faire de la décoration dans les maisons. Là.
Parce que tout, là, t'es rendu partout à travers le monde. Là.
27 pays présentement qu'on travaille. Là. La Chine, énormément. Là.
Ouais.
Enfin, on, beaucoup de pièces pour la Chine. On vend beaucoup. Il y a beaucoup de musées là-bas. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cet art-là. Fait qu'on en fait beaucoup de pièces pour là-bas. Ouais.
Puis le cinéma, c'est arrivé comment dans ta vie? Parce que toi, quand tu fais ça, ouais. Tu penses pas que toutes tes pièces vont se ramasser dans des films.
Le cinéma, c'est vraiment un gars qui, à un moment donné, me connaissait par un autre puis par un autre, là, qui était dans le domaine à Montréal, dans le domaine de la confection de vêtements pour okay. Le cinéma. Fait que là, il m'appelle, « Mario, j'ai besoin de fourrure, j'ai entendu parler de toi par un tel, blablabla. » Bla. C'est comme ça que ça a commencé bien tranquillement. Puis lui, il m'a donné des... Il a fait des petits, là. Lui, là, appelle Bilodeau, il y a tout. Puis ces gens qui sont venus ici, là, quand t'as fait le tour, là...
C'est... T'es juste impressionné.
Il y a une expertise, puis après ça, il y a un matériel que... Bien, il y a un film sur lequel on a travaillé, ça s'appelle Maïna. C'est un film qui était tourné ici, puis à Iqaluit. Le réalisateur me téléphone, puis tout ce qu'il disait, qu'il me demandait, je disais oui. Oui, j'ai ça. Oui, j'ai ça. Des courses de boulot. Oui, j'ai ça. Oui, mais beaucoup. Oui, j'ai ça, beaucoup. Là, lui, mais des pots de caribou, t'en as-tu... Oui, j'ai ça. J'ai deux palettes de pots de caribou dans un de mes garages. Ah ouais. Là, il me criait pas. Non, je voyais qu'il me criait pas. Ouais, mais ça se peut pas, mais ça demain. Il dit, écoute, j'ai dit, je vais faire une affaire avec toi. Viens, là, je te paye l'hôtel. Je te paye, bien, c'est à Montréal, il est à Montréal. Je te paye l'hôtel, puis je te paye toutes tes dépenses, la bouffe, ton gaz, tout le
kit. Viens voir.
Viens voir. Fait que, il dit, c'est beau. Il dit, je regarde ça avec mon équipe, je te reviens. Fait que là, il arrive ici, il m'appelle, il me dit, Mario, il dit, je t'envoie un gars de mon équipe, il va être chez vous demain durant le midi, il va aller coucher à Saint-Vicien, puis il dit c'est beau, parfait, je suis bien content. Fait que j'ai dit mon offre tient encore. Fait que c'est beau. Fait que là, il m'a envoyé son gars, il montre tout ce qu'il m'avait dit, ça, puis moi j'ai trois entrepôts. Puis okay. Ça ici en plus. Ici, c'est à 4 étages. Fait que là, j'y montre ça toute l'équipe, puis là, lui, c'est une boquette à terre.
C'est clair.
Il appelle son boss, puis il était là. Il dit ce que Bilodeau t'a dit, là, c'est vrai, je couche ici. Le coucher ici, on a tout pacté le lendemain. On a envoyé 5 palettes de stock qu'on a tout emballé, qu'on a envoyé sur le tournage pour faire le film Maïna. Wow. Après ça, ils m'ont donné des accessoires à faire. J'ai fait des tambours, j'ai fait toutes sortes de bebelles. Fait que c'est ça qui a fait...
C'est ton expertise,
à puis l'expertise, puis le vouloir avoir... Nous autres, là, on est des... L'équipe, là, ici, là, c'est tous des gens qui veulent avancer. Tu sais, la robotisation et ces affaires-là, tu sais, c'était pas notre domaine pantoute, là.
Ouais.
Tu sais, on connaissait pas ça, là. Mais fil en aiguille, on s'est informé, puis c'est Internet, puis fouille à être ça d'un bord puis de l'autre. Puis là, on a commencé à faire toutes nos rebelles, là. Fait que c'est comme ça que là, puis nous autres, on est passionnés par ça, puis on en veut encore plus. Ouais. Fait que c'est ça qui nous amène. Tu sais, faire de la taxidermie, c'est bien beau, mais faire des affaires hors de l'ordinaire, c'est encore bien plus beau. Puis après ça, ça t'amène ça sur le plancher à l'équipe, là. Dis, ayo. On n'a jamais fait ça, non. Il y a tout ce qu'on a ici, on n'a jamais fait. Fait que c'est ça qui ben fait ouais. Que c'est
là, agréable. En bas, ici, là on est chez vous dans ton entreprise. Puis là, tu as une salle de monde qui est extraordinaire. C'est un économisé, les gens peuvent venir voir. C'est un gros investissement faire ça.
Ouais.
Mais tu fais ça ici à Normandin. Est-ce que pour toi, ça n'aurait pas été plus payant? Là, je fais le naïf de l'affaire au centre-ville de Montréal.
Non, c'est parce qu'ici, c'est chez nous, c'est...
C'est
tu peux pas le faire ailleurs que dans l'entreprise. Parce que si tu veux comprendre, là, il faut que tu viennes le visiter. Tu fais la visite VIP. Tu as vu tantôt, il y avait un autobus qui arrivait, c'est dirigeant de Sherbrooke. Puis ils arrivent, puis ils viennent. Ils ont jamais, ils connaissent à peu près pas Bilodeau, ils ont jamais fait ça. Mais tu dois lui demander en sortant, tu vas voir. Ils disent toutes la même chose. Jamais j'aurais pu penser que ça se faisait ici au Québec.
Ouais.
Tu sais, jamais j'aurais pu penser que c'était autant. Fait que c'est ça qui est laissé. Puis si tu le vois pas. Dans l'entreprise, c'est pas la même affaire. Parce que là, tu vois tout. Parce que quand tu viens, tu vois toute la confection, la taxidermie qui se fait. Tu vois le produit final en dernier quand tu fais la scène avec les bêtes mécanisées puis toutes les bêtes naturalisées. Fait que c'est ça qui fait que c'est doublement intéressant puis que tu comprends mieux. Puis en même temps, qui nous fait une pub extraordinaire.
Oui, ben oui. Le monde qui part d'ici, là, quand ils vont s'acheter des bottes de poêle,
ben,
c'est sûr qu'ils vont
travailler. Ils vont penser à nous autres.
Oui. Donc, c'est loin d'être fini, là, Bilodeau Canada. Dans le sens, je t'écoute parler, là. Je sais pas, t'as quel âge, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est loin d'être fini.
On a une relève, on a commencé, on a une relève. J'ai mon neveu qui travaille avec moi, qui a fini son université, ça fait 3 ans. Puis depuis ce temps-là, qui travaille avec moi, puis lui, c'est un passionné comme moi. Tu parles à Samuel, puis tu parles à Mario, c'est la même brillance dans les yeux, c'est la même passion, tu le vois. C'est mon neveu depuis l'âge de 12 ans. Que ce petit gars-là, il a travaillé avec moi dans toutes sortes d'affaires. On a tué des premiers orignaux ensemble dans le bois à faire de la chasse fine. C'est un caleur extraordinaire. Il y a une passion dans ce petit gars-là qui est le fun. Puis on a une relève. J'ai Marie-Josée, ma contrôleur, qui est avec moi. J'ai Karine aussi qui est à relève, qui est avec moi, qui est une contremaître en bas, qui a commencé comme couturière. Puis qu'aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe, elle fait partie de l'entreprise. C'est vrai que c'est une belle jeunesse. Qu'on a forgé ensemble et qu'on a su transmettre la passion.
Puis là, tu parles de relève. Est-ce que toi, déjà, tu penses à l'après?
Oui. Ben, les pourvoiries, c'est ça.
Les pourvoiries, c'est ça.
Oui, c'est ça. Moi, je vais rester avec eux autres, naturellement, pour certaines périodes de l'année qui veulent que je sois là, s'il y a des problèmes, puis s'il y a de l'innovation, puis des causes à même. Ça, c'est sûr et certain que je vais être proche. Mon nom est sur Baptiste, puis en plus, Samuel, c'est mon neveu, puis je suis fier de ça, que ça continue dans la même lignée. Ça, c'est sûr et certain. Puis on a beaucoup de... un autre de mes neveux, c'est Gabriel qui travaille avec moi. Gabriel Bilodeau qui travaille, qui porte le même nom. J'ai un de mes cousins, Danny Bilodeau, qui travaille avec moi. Il a le même nom. Tu sais, dans la gang, on a des liens quand même assez forts.
C'est plus que ton nom. C'est maintenant, c'est la fierté de tout le monde, même à Normandin.
J'imagine que les gens doivent être fiers de ça sûrement, qu'on rayonne un peu partout. Mais nous, dans l'entreprise, les gens qui travaillent ici, tu leur parles. Puis hier, on avait une petite discussion là-dessus. Tu sais, les gens, tu vois qu'ils sont fiers de produire des produits qui partent d'ici et qui se promènent partout à travers le Québec, le Canada, puis à l'étranger. Fait que c'est sûr et certain que c'est une fierté, tu sais, que tu prends un produit qui est une matière qui est complètement brute, puis que tu l'emmènes dans une matière complètement transformée, puis qui est vendue à grosse échelle. Fait que c'est une fierté pour ces gens-là.
Oui, je pense qu'il faut venir, puis il faut s'informer, puis il faut voir, parce que je pense que tes produits sont qualité en plus. Fait que tu achètes, oui, c'est pas plus cher que d'autres choses, mais la qualité, t'es là pour toute la vie.
Oui, c'est ça, t'as une qualité, puis après ça, t'as la fierté de dire que c'est fait chez vous.
Oui,
quand tu te promènes, tu rencontres quelqu'un, mais tu mets des belles bottes. Oui, c'est fait chez nous, là, c'est une entreprise du lac qui fait ça. C'est quelque chose. Tu sais, comme je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, parce que normalement, puis dans le secteur nord du lac, on a beaucoup d'entrepreneurs dans plusieurs domaines, puis moi, je suis proche des entrepreneurs, on se connaît, on est quasiment tous de la même âge, on est des gens qu'on est des écoles ensemble. Mon frère était en business pendant 25 ans, puis là, il a retraité, mais il était en business, puis on allait tout le temps déjeuner une gang de gars de business. Tu vois l'entrepreneurship qui est dans le secteur. Puis moi, c'est une fierté pour moi. J'ai vu il y en a qui ont réussi encore mieux que moi. T'sais. Puis ça, moi, je suis fier de ça. Je trouve que c'est le fun parce qu'il y en a même qui sont à Delbeau, qu'aujourd'hui, c'est des gens de Normandin qui ont parti des belles business, qui ont fait de la relève sur d'autres business. Puis ça, moi, je suis fier de ça. Puis ces gens-là, ça l'a fait que je veux le dire, c'est que nous autres, on a réussi, mais c'est pour montrer aux jeunes qu'il y a du potentiel dans le secteur. Mais même si t'es au nord du lac Saint-Jean, t'es en région, là, puis t'es dans la plus belle place à vivre au monde, tu peux réussir à gagner ta vie puis bien t'en sortir, même si t'es pas dans des grands centres. Puis je pense que la qualité de vie ici, pour les gens qui sont ici, moi, je trouve que ça n'a pas de prix, là. Tu sais, les jeunes, les enfants, l'amitié qu'on a. Moi, je demeure au Lac-Adjim, à Saint-Thomas-Didyme, au Lac-Adjim. Puis on est une gang, qu'on est là ensemble. Tu sais, on a un 5 à 7 à tous les jeudis soirs. C'est toujours la même petite gang. Puis tu sais, on a une famille. Puis
tu fais partie de la communauté.
Ah, oui, j'adore ça. Puis ça, tu m'enlèves pas ça, c'est impossible, tu m'enlèveras jamais ça. Ouais. Ça fait partie de moi. L'être humain, c'est super important. J'aime les gens. Je suis un gars qui aime les rencontres. Puis j'adore ça. Puis ici, je pense que dans l'équipe, on a transmis ça un peu, tu sais. Les gens sont un petit peu comme moi. C'est des gens qui aiment le monde, tu sais. Parce que tu passes dans l'atelier, puis souvent, je me fais dire, quand les gens partent, les gens ont l'air heureux, hein.
Ouais.
Tu te fais dire ça, là. Le gars, c'est lundi matin, puis il est quand même... Tu sais, lundi matin, là, des fois, t'arrives... Mais on est tous de même.
On est tous humains.
Puis ça, puis les gens viennent visiter, puis ils disent, « Hey, ils ont l'air aimé ça, le monde qui travaille ici, hein? » Parce que les gens lui posent des questions, puis moi, je le laisse faire, tu sais. Me dit, c'est beau travailler, mais ça fait partie aussi de nous autres, de pouvoir avoir une tribune.
Faire la pédagogie.
Oui, de montrer pourquoi on fait ça, puis pourquoi on a envie de ça. c'est super important. Je pense que ça, c'est dans l'entreprise, nous autres, on peut le faire. Fait ouais. qu'on serait fou de ne pas le faire.
Puis comment tu vois l'avenir du commerce de la fourrure? Toi, tu es toujours en train d'innover.
Oui.
Mais tu sais, il y a une réalité. J'imagine que là, sans dire que tu es arrivé à la fin de ce que tu peux faire, au contraire, tu peux peut-être encore innover? Ou...
Moi, je pense qu'on va avoir des gens qui vont suivre nos traces.
Okay.
Il y a des entreprises qui vont embarquer, qui vont ressembler à la nôtre, puis qu'ils vont lever tranquillement, puis qu'ils vont prendre lieu de place. Je crée à ça. Puis il faut que ce soit ça aussi, parce que moi, je pense que la fourrure, il faut continuer, puis il faut se battre pour être capable de dire que c'est une matière qui est naturelle, renouvelable, écologique, faite dans des bonnes façons de faire, puis il faut le transmettre à travers le monde, puis il faut se donner une tribune pour être capable de le démontrer. Ouais. C'est ça. Ça prend une tribune. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Ce que vous faites un matin, là, ouais. ça prend ça. Ouais. Tu sais, on le fait sur des petits réseaux, mais il faut que ça devienne qu'on soit capable. Moi, aller à Tout le monde en parle, ça fait longtemps que je le rêve d'aller là.
Ouais.
Pour être capable d'aller expliquer au monde, aux gens du Québec, puis aux gens de l'extérieur, qu'en région, nous autres, ça nous tient à cœur de pouvoir garder des business comme ça, parce qu'on est ici à cause de la fourrure, puis il faut être fier d'emporter. Puis
ouais,
il faut être fier de l'utiliser.
Oui, tu sens-tu qu'il y a encore ça, des gens qui veulent pas en être fiers, tu sais, dans le sens qu'ils vont acheter des affaires, mais ils veulent pas trop en parler parce
qu'ils ont peur des... Dans les grands centres. Dans les grands centres aussi, parce qu'il faut dire aussi que dans les grands centres, il y a beaucoup de gens étrangers.
Mm-hmm.
Tu sais, tu vois, à Montréal, on va aller manger au restaurant, moi plutôt dans le centre-ville, on va probablement être les deux seuls Québécois dans le restaurant. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de communautés, c'est correct. Mais ces gens-là aussi, il faut qu'ils comprennent que nous autres, c'est notre vie, ça.
Oui, ils connaissent pas cette
connaissent pas ça.
Ouais.
La réalité, nous autres, ici, tu viens en région, c'est ça. Tu vois, que ce soit à Côte-Nord, tu vois, en Abitibi, tu viens ici, toutes les régions, tu t'aperçois que les gens, il y a des trappeurs, les gens utilisent la fourrure, elle est vendue, elle est travaillée.
Puis tu vois, tout aussi avec le renouveau où on redonne un peu de l'importance aux cultures des Premières Nations, j'imagine que ça aussi, ça doit te faire plaisir.
Oui.
Dans le sens que pour eux, ça a toujours été important, fait que ça remet ces valeurs-là en place, j'ai l'impression.
Oui, puis eux autres aussi, il faut qu'eux autres prennent ça aussi en main. Tu sais, qu'ils prennent ça en main, que c'est leur culture, puis qu'il faut qu'ils redonnent ça aux jeunes.
Ouais.
Tu sais, moi, je suis allé faire des conférences sur des réserves, là, je te dis qu'il y a des fois, je revenais, je me disais, hey, tabarouette, on a un pas à faire, là, faut que ces gens-là, faut lui remettre encore, ouais, faut remettre aux jeunes, là, faut que les plus vieux remettent aux jeunes ce qu'ils aient leur connaissance. Mais c'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on fait nous autres, là, tu sais, on est en train de rééduquer la bonne façon de le faire pour se dire, gars, c'est écologique de le porter, puis il faut être capable d'avoir le discours aussi. Tu vas être capable d'avoir le discours pour le dire, puis que là, c'est pas une petite personne comme moi, puis une petite gang comme moi qui va être capable de faire ça. Ça va être plusieurs entreprises qui vont être capables de faire ça.
Peut-être toi, la bougie d'allumage.
Ah, j'espère. Ça fait longtemps que je veux ça, puis que je fais beaucoup de je fais des articles de journaux, je fais d'autres.
On le voit, puis on t'entend. Tu manques pas une tribune. D'ailleurs, merci pour ta belle disponibilité.
Ça me fait plaisir.
C'est déjà terminé, Mario. Merci beaucoup. C'était très éclairant. T'es un gars dynamique, innovant, puis c'est vraiment agréable. J'espère que ça va vous avoir un peu, chers téléspectateurs, pas déniaisé, mais éduqué à tout ce qui se passe ici à Normandin. Merci beaucoup, Mario.
Merci à toi.
Au plaisir.